Chapitre 27. L'Ancien Testament en 10 notions. Dans ce chapitre, Dieu, l'homme et la femme, les notions religieuses du monde judéo-chrétien. Pierre angulaire de la culture judéo-chrétienne, l'Ancien Testament est la partie de la Bible commune aux Juifs et aux Chrétiens, lesquels lui adjoignent le Nouveau Testament. Il relate l'histoire du peuple juif avant notre ère et sert de base à la religion. Voici 10 notions religieuses telles qu'elles sont définies au travers des 24 livres qui composent l'Ancien Testament. Dieu. Le Dieu de l'Ancien Testament est par nature inconnaissable. Le peuple élu le connaît sous les 4 lettres, YHWH, ou Yahvé. Mais on évite autant que possible de prononcer ce nom, surtout en public, préférant le remplacer par Adonai, qui signifie « Seigneur ». Sa représentation physique est aussi délicate. Dans de nombreux passages, il se comporte comme le ferait un homme, mais c'est une pure commodité de langage. S'il faut donner à Dieu 2 attributs, ce sont plutôt le souffle et la parole. Le souffle tout d'abord, car il était présent à l'origine, avant même la création. Le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. La parole ensuite qui organise la création. À chaque fois que Dieu dit, son verbe divin se transforme en acte. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Le Dieu de l'Ancien Testament ne peut donc revêtir aucune forme. Dans son temple, celui de Salomon à Jérusalem, il n'y a aucune statue. Seule l'Arche d'Alliance, un coffre de bois doré qui contient les tables de la loi données par Dieu à Moïse, repose dans le Naos, qui est une petite chapelle, la partie la plus sainte et la plus cachée du sanctuaire. Une fois encore, il ne s'agit pas de Dieu, mais de sa parole. C'est elle seulement qui entre en contact avec les hommes, soit dans les songes, comme pour le jeune Samuel ou Jacob, ou encore Joseph, soit sous la forme du buisson ardent qui brûle sans se consumer pour Moïse. L'homme. Si Dieu n'est guère facile à saisir, l'homme pose aussi un certain nombre d'interrogations. Déjà de par sa création, selon le récit le plus ancien daté probablement du Xe siècle avant Jésus-Christ, le Seigneur modela l'homme avec de la poussière prise sur le sol. Il souffla dans ses narines l'haleine de vie et l'homme devint un être vivant. Ce premier homme, fait de boue, Adama, porte le nom d'Adam, c'est-à-dire littéralement le glébeux. Mais il existe un second récit de la création daté, lui, du VIe siècle avant Jésus-Christ. Sans que soit précisé un éventuel matériau, Dieu créa en même temps homme et femme. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Attention ici à une confusion fréquente, à son image ne signifie pas qu'il ressemble à Dieu. Cela veut seulement dire que dans un univers où il y a Dieu d'une part, toutes les autres créatures, y compris l'homme de l'autre, seul ce dernier a l'insigne privilège de pouvoir entretenir un dialogue avec Dieu. Sans cette possibilité, pas de table de la loi avec Moïse, ni d'alliance avec Abraham. Immortel, éternellement jeune, exempt de maladies et de souffrances, l'homme vit au jardin d'Éden jusqu'au moment où il mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce jour-là, il devient mortel, vieillit, connaît les affres de la maladie. Pour se nourrir, il doit désormais gagner son pain à la sueur de son front. Le travail et sa racine latine, le trépalium, la torture, viennent de naître. La femme. Si comme nous venons de le voir, le récit le plus récent de la création de l'homme postule en même temps celle de la femme, dans la version plus ancienne, une nouvelle intervention de Dieu est nécessaire. C'est la fameuse côte prise à Adam endormi, à partir de laquelle Dieu crée la femme nommée Ève, la vivante en hébreu. Il était temps. Adam commençait à s'ennuyer ferme sans personne à qui parler. Mais avec la femme se profile la chute par l'intermédiaire du serpent tentateur. Celui-ci promet à la femme qu'elle-même et Adam seront comme des dieux s'ils goûtent le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lequel est d'ailleurs originellement un figuier. Le pommier qu'on représente souvent est dû à une erreur de traduction à l'époque médiévale. La réalité est tout autre. Après avoir goûté le fruit défendu, le premier couple se retrouve nu, honteux. La femme également connaîtra désormais la vieillesse et la mort, et son travail, sa torture, sera d'enfanter dans la douleur. Ne dit-on pas d'une parturiente arrivée au terme de sa grossesse que le travail est commencé? Et le serpent, me direz-vous? Il ne s'en tire pas non plus sans dommage. Condamné à ramper, il est désormais haï des hommes qui cherchent à l'écraser et le leur rend bien en essayant de les mordre à la moindre occasion. La famille. La société décrite dans l'Ancien Testament est une société holiste, c'est-à-dire dans laquelle le groupe prime sur l'individu. Hommes, femmes, enfants, tout un chacun se définit et trouve sa place par rapport au groupe auquel il ou elle appartient, à la différence de nos sociétés individualistes actuelles, dans lesquelles l'individu se place d'abord en fonction de lui-même, puis et seulement ensuite en qualité de membre de différentes structures de groupe. Parmi les groupes que sont les familles, les tribus et les royaumes, l'Ancien Testament accorde une place primordiale à la structure familiale, à la base de laquelle se trouve le mariage, en principe monogame et en réalité largement polygame. Ne prêtait-on pas à Salomon plus de 1000 concubines? Dans les faits, tout dépend de la richesse de l'époux. Riche, il peut entretenir plusieurs compagnes et des concubines annexes. Pauvre, il doit se limiter à une unique femme. En principe, le mariage est arrangé entre deux familles. La femme est alors un bien d'échange qui scelle l'union de deux groupes. Pourtant, l'Ancien Testament n'est pas avare en Roméo et Juliette locaux qui se languissent d'amour autour d'un puits, le lieu de rencontre par excellence des jeunes gens et jeunes filles. La finalité du mariage est bien sûr d'assurer au couple une descendance, un point qui tourne parfois à l'obsession véritable dans les récits. Il n'est pire malheur pour l'épouse que la stérilité. Rachel, par exemple. Épouse stérile de Jacob, elle a beau être aimée de lui, elle jalouse en permanence sa sœur Léa, elle aussi épouse de Jacob, qui lui a donné de nombreux fils. Autre exemple, Sarah, la femme sans enfant d'Abraham, implore Dieu chaque jour, qui finit par lui accorder la maternité à 90 ans. La nécessité d'avoir des enfants donne naissance à une institution, le Lévirat. Si une femme se retrouve veuve et sans enfant de sexe masculin, elle est épousée par le frère de son mari décédé et leur fils, s'ils en ont un, est considéré par tous comme l'enfant du défunt. À l'intérieur de la famille, le patriarche, un peu comme le pater familias romain, a tous les droits ou presque sur l'ensemble des membres de la maisonnée. Femmes, concubines, enfants et serviteurs. Cette position de prestige et de pouvoir sans partage explique les rivalités violentes et fréquentes qui opposent entre eux les frères comme Ésaü et son frère jumeau Jacob, les fils d'Isaac et de Rebecca. Le pur. Dans une société antique où la vie quotidienne et le monde divin ne sont pas pensés séparément, l'homme doit respecter certains interdits afin de demeurer en état de pureté. Les plus évidents sont exposés dans les 10 commandements. Un Dieu unique, pas d'idole, pas de juron utilisant le nom de Dieu ou toute autre mauvaise utilisation, le respect du Shabbat, jour de repos consacré au Seigneur, honorer père et mère, ne pas tuer, ne pas commettre l'adultère, ne pas voler, ne pas porter de faux témoignages, ne pas convoiter le bien d'autrui. Les autres prescriptions concernent la vie quotidienne et les rapports entre individus. Pourtant, en dépit de toutes les précautions au regard de Dieu, aucun ne peut prétendre à la pureté permanente, d'où la nécessité du grand pardon. Une fois par an, ce rituel du jour des expiations permet à l'homme et à tout Israël de retrouver grâce devant Dieu en rejetant tous les actes impurs commis volontairement ou non au cours de l'année qui s'est écoulée. La cérémonie comprend deux parties, l'une proprement liturgique, l'autre propitiatoire et destinée à éloigner les malheurs et le châtiment. La liturgie est accomplie par le grand prêtre qui pénètre dans le Naos, le saint des saints du temple de Salomon, et, face à l'arche d'alliance, implore le pardon. Puis le rituel d'expiation proprement dit prend place. Deux boucs parfaits, c'est-à-dire sans défaut ou infirmité, sont amenés. L'un consacré à Dieu lui est sacrifié après tirage au sort. Sur le second, nommé Azazel, probablement le nom d'un démon assyrien, sont rejetées symboliquement toutes les fautes. Il est ensuite conduit dans le désert, où il est abandonné, condamné à y mourir de faim et de soif. Par sa mort, il rachète tous les péchés d'Israël. L'impur. Au pur s'oppose nécessairement l'impur. Ainsi, le mariage qui est pur s'oppose-t-il à l'adultère qui est impur. L'hétérosexualité qui est pure s'oppose à l'homosexualité qui est impure, et ainsi de suite. Deux domaines sont toutefois plus directement concernés. D'une part, les éternels Eros, l'amour, et Thanatos, la mort. D'autre part, l'alimentation. L'essentiel des interdits et rites de purification est développé dans le Lévitique, troisième livre du Pentateuque. Dans le domaine sexuel, en dépit d'extraits très explicites, voire franchement crus, et de cet admirable hymne à l'amour, union des âmes et des corps qu'est le Cantique des Cantiques, qui exclut toute pudibonderie, l'Ancien Testament n'accepte pas tout. Outre l'homosexualité, la prostitution est sévèrement condamnée, tout comme le plaisir solitaire, le fameux crime d'Onan, dont voici l'origine. Tamar, mariée à Er, devient veuve sans avoir eu d'enfant. Selon la loi du Lévirate, le frère cadet du défunt Er, Onan, doit prendre Tamar pour épouse puisqu'il est célibataire. L'enfant qu'il lui donnerait serait considéré comme le fils posthume de son frère. Or, Onan ne veut pas d'un enfant qui ne serait pas le sien. Afin d'être certain que Tamar ne soit pas enceinte de lui, quand il allait vers la femme de son frère, il laissait sa semence se perdre pour ne pas donner de descendance à son frère. Pour ce crime, il meurt par la volonté de Dieu. Cependant, c'est la femme qui supporte l'essentiel de l'impureté. Ses menstrues et ses couches la rendent impure et nécessitent des bains rituels pour éliminer la souillure. Il en va de même pour tout ce qui a trait à la mort et à son contact, les cadavres par exemple. Les interdits concernent aussi l'alimentation. Toutes les catégories d'aliments sont réparties entre purs et impurs, ceux qu'il est permis de consommer, ceux qui sont interdits. Les grandes lignes de ces prescriptions, par ailleurs très complexes, sont les suivantes. Pour les animaux terrestres, ne sont autorisés que ceux qui ont des cornes, ruminent et ont le sabot fendu. Pour les poissons, seulement ceux qui ont des écailles et des nageoires. Pour les oiseaux, sont interdits tous les oiseaux de proie ou nocturnes, tous ceux susceptibles de se nourrir de cadavres. Tous les insectes sont interdits, ainsi que les crustacés, car ils se nourrissent parfois de cadavres. Seules les sauterelles sont autorisées, car herbivores. Il y a interdiction de mélanger le lacté et le carné au nom du commandement du Pentateuque. Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère. C'est l'interdiction de faire cuire la viande dans du lait ou du beurre, de manger du fromage à la fin du repas, de se servir des mêmes instruments de cuisine pour l'une et l'autre catégorie d'aliments, etc. Le monde. L'Ancien Testament fait du monde un lieu équivoque pour l'homme. Il est prévu pour lui et créé afin qu'il le domine, tout en lui demeurant dans le même temps largement inconnaissable, voire hostile. Ainsi, le déluge réussit-il presque à éradiquer la race humaine ? Par ailleurs, Adam, notre glébeux, est fait lui-même d'argile ou de boue, donc d'un matériau qui lui est extérieur à l'origine. Chaque élément qui compose le monde est marqué de cette dualité. Les animaux servent à nourrir les hommes, mais les bêtes féroces peuvent les déchiqueter. Les eaux dévastatrices du déluge sont aussi celles qui alimentent les jardins, irriguent les cultures et fournissent la boisson première à toute vie. La nature tout entière participe du châtiment divin depuis que l'homme est condamné par Dieu à peiner pour produire sa nourriture. Destiné dès l'origine à la maîtrise du monde, l'homme y trouve à la fois un lieu de refuge quand il l'a aménagé et un milieu hostile, effrayant, à l'opposé exact du jardin d'Éden dont il a été chassé. Le temps. Le calendrier des Hébreux est celui des activités des pasteurs nomades devenus sédentaires et pasteurs agriculteurs. Mais il est aussi et surtout fondé sur des temps forts correspondant aux principales célébrations liturgiques. Si l'année se termine en été et recommence à la fin de cette saison, la première grande fête est celle de Pessah, la Pâque, que les chrétiens transforment en changeant son symbole également en « les Pâques » au pluriel. Pessah dure 7 jours et célèbre la fuite des Hébreux hors d'Égypte. 50 jours après se déroule la Pentecôte juive, Pentecôte en grec signifiant « 50 » ou « Shavuot, la fête des moissons. Elle célèbre la remise à Moïse des 10 commandements. La dernière grande célébration se tient à l'automne avec Soukhot, la fête des cabanes. Ces cabanes commémorent les abris rudimentaires qui hébergèrent les Hébreux durant la traversée du désert sur leur route vers la terre promise. Temps liturgique donc qui s'écoule autour de la valeur symbolique du chiffre 7, Dieu ayant créé le monde en 6 jours et se reposant le 7e. De même, les hommes lui consacrent le 7e jour de la semaine, Shabbat, laissent les champs en jachère tous les 7 ans pour une année pleine et célèbrent la fête du jubilé tous les 7 fois 7 ans, c'est-à-dire tous les 49 ans révolus. Le roi. Rencontrons maintenant un personnage ambigu, le roi. Longtemps, les 12 tribus d'Israël, 2 au sud et 10 au nord, vivent sous la conduite de patriarches sans éprouver le besoin de s'unir et encore moins celui de placer un roi à leur tête. À cela, rien de surprenant. D'une part, le seul roi est Yahvé. Aucun autre ne saurait lui être comparé. La seule royauté est celle de Dieu. D'autre part, les modèles offerts aux tribus ne sont guère tentants. Qu'il s'agisse des pharaons égyptiens, des princes de Sumer ou des rois assyro-babyloniens, il s'agit surtout d'une succession quasiment ininterrompue de despotes, qui plus est divinisés de leur vivant ou à leur mort. C'est seulement en 1010 avant Jésus-Christ que Saül devient le premier roi. À sa mort, 4 ans après, lui succède David, vers 1006-966, et Salomon vers 966-926. Après la disparition de ce dernier, deux royaumes se maintiennent quelques siècles, le royaume d'Israël de 926 à 722, détruit par Sargon II, et le royaume de Juda de 925 à 587, détruit lui par Nabucodonosor II. Le sacre qui nous semble appartenir au monde des rois européens, et particulièrement en France, trouve en fait son origine dans l'Ancien Testament. Le roi élu par Dieu devient, par son accession au trône, un être d'exception, un intermédiaire entre Dieu et le reste des hommes. Certes, il demeure un homme, mais sa fonction en fait un individu sacré, à la personne inviolable. S'en prendre au roi, c'est s'en prendre à Dieu qui l'a choisi. Afin de marquer ce caractère unique, le roi doit donc être sacré au double sens du terme. D'une part, une onction de l'huile versée sur sa tête fait de lui un messie, un envoyé de Dieu, sacré roi selon ses volontés. D'autre part, cette cérémonie lui confère son caractère sacré. Les souverains francs s'en souvinrent et c'est ainsi que Clovis fut sacré en 496 par Rémy, évêque de Reims, grâce à une ampoule fabuleuse contenant une huile miraculeuse, le Saint Crème, supposé se régénérer de roi en roi, de sacre en sacre. L'ampoule, toujours pleine, aurait servi de Clovis en 496 à Charles X en 1824. La mort. Dans la tradition des textes de l'Ancien Testament, la mort est la fin ultime. Il faut attendre les tout derniers textes ajoutés par des juifs de langue grecque dans la version des Septante et surtout le Nouveau Testament des chrétiens pour voir arriver une résurrection qui est un devenir après la mort. Avant cela, l'homme, voulu âme et corps indissociable par son Créateur, perd tout en mourant. Le corps disparaît ainsi que l'âme. Les défunts, allongés, demeurent dans un gouffre souterrain dans la nuit permanente en un lieu appelé Shéol. De ce séjour éternel, sans espoir, hors de la vue de Dieu, il n'y a absolument rien à attendre. Aujourd'hui encore, les Juifs qui contestent les textes apocalyptiques ajoutés au IIIe siècle avant Jésus-Christ à Alexandrie, des textes qui évoquent la résurrection et la récompense ou punition des actes commis selon leur nature, doivent réaliser durant leur vie ce qui est conforme à l'Alliance. Pour cela, ils disposent d'un temps de vie d'un maximum de 120 ans, bien loin des 930 années accordées à Adam. Remerciements. Un grand merci à Nathalie B. qui n'a jamais reculé devant la saisie de l'un de nos manuscrits, preuve manifeste de sa tendance à l'héroïsme.